Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Vous l'aurez remarqué, je me suis bien habillé pour l'occasion parce que on fait un enterrement. On fait l'enterrement un peu de la dette française. Dans cette émission, je vais m'efforcer de faire des prévisions, ce qui est toujours un petit peu difficile en matière économique parce qu'il y a une infinité en réalité de paramètres qui jouent et qui varient de façon pas toujours cohérente. Un coup ça monte, un coup ça baisse. Or, quand on veut faire des scénarios, on est obligé de tenir des scénarios un peu cohérents, donc soit des stagnations, soit des légères hausses ou des légères baisses de tel ou tel paramètre. Et à chaque fois, la façon dont vous intriquez les choses va faire changer le résultat. Mais enfin, ce
La
n'est pas
seule chose dont
grave.
vous soyez certain, c'est que vos prévisions ne marcheront pas. Mais c'est pas
Voilà,
grave.
absolument.
Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il faut pas en faire. Il faut
Tout à fait.
définir quelques scénarios, quoi.
L'idée, c'est pas de définir la réalité, c'est de faire en quelque sorte de cantonner la réalité,
Voilà,
c'est-à-dire
c'est ça.
estimer ce qui est probable, ce qui est improbable, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est dresser le tableau de notre situation financière, budgétaire. Donc déjà, où est-ce qu'on en est de la dette? La dette aujourd'hui, elle est de 3 500, pardon, milliards d'euros, donc 3 460 très précisément fin 2025.
Mais à la fin de la réunion, ce sera 3 500.
Voilà, c'est
Vous allez
ça.
où ça galope?
Voilà, ça galope très très vite. Donc c'est à peu près 115% du PIB, 115,6% du PIB, et une charge d'intérêt, c'est ce qui va m'intéresser le plus dans cette émission, à 65 milliards d'euros, qui devrait approximativement doubler d'ici 2030. On va vérifier si ça va vraiment doubler ou pas. Et forcément, ça a un impact massif sur nos déficits, parce qu'en fait, il y a quelques années déjà, c'était pas 65 milliards, hein, c'était aux alentours de 30. Donc ça a déjà doublé en l'espace de 3-4 ans, et ça risque de doubler encore probablement en 3-4 ans
On
aussi.
arrive au moment dans la dette où la dette augmente beaucoup, beaucoup plus vite que le PIB, la
Absolument.
croissance, etc. Donc on est dans ce qu'on appelle une trappe à dette.
Absolument. Donc tout d'abord, je vais dresser une sorte de portrait général de comment les choses ont évolué depuis 10 ans. Ensuite, je vais m'efforcer de regarder ce que d'autres organismes, que ce soit étatiques ou pas, ont fait pour estimer ce que va représenter la charge de la dette à l'horizon 2030. Et ensuite, on va faire les modèles maison, donc dont je me suis occupé moi-même. Donc tout d'abord, on va regarder comment a évolué la dette publique. Donc la dette publique, vous voyez sur ce premier graphique, c'est en valeur absolue, c'est les histogrammes qu'il faut lire avec l'échelle de gauche, et en valeur relative par rapport au PIB, c'est la courbe dorée, donc que vous pouvez lire avec l'échelle de droite. Donc vous voyez qu'on a eu un saut énorme sur cette deuxième échelle pendant le Covid, et que depuis ça s'est globalement un petit peu apaisé, en tout cas ça a plutôt stagné. L'histogramme en revanche, lui, donc la dette public en valeur absolue, elle ne fait qu'augmenter. Elle est passée quand même de 2 190 milliards en 2016, donc il y a 10 ans, à 3 460 là en fin 2025. Donc c'est quand même une hausse assez importante de 1 300 milliards environ en 9 ans. C'est quand même pas rien. Et derrière, vous voyez donc ce ratio dette sur PIB qui stagne globalement à 115, mais enfin qui augmente quand même sur les 2-3 dernières années. Regardons ensuite le produit intérieur brut avec la croissance économique. Bon, alors là, pas grand-chose à analyser non plus. On a une croissance assez faible, hein, aux alentours de 1%, 1,5% quand ça va bien, sachant que pour prendre un référentiel d'une autre grande puissance, à savoir les États-Unis, là-bas, quand la croissance elle est de 2%, elle est considérée comme plutôt faible, hein. Chez nous, 2%, c'est stratosphérique. On voit aussi la croissance avec les données sur l'échelle de droite. Et donc là aussi, bon, on voit une croissance assez faible, forcément des écarts assez importants au moment du Covid 2020-2021. Donc d'abord une récession de l'ordre de 7,4% du PIB, avec derrière un rattrapage aux alentours de 6,9%. Pareil en 2022. La croissance a été plus forte que d'habitude, mais encore une fois, c'était aussi l'effet de rattrapage de l'année 2020. Et depuis, bon, bah, on est tranquillou aux alentours d'une croissance de 1,2, 1% là pour l'année 2025. Donc, c'est pas brillant.
Et encore, ça, c'est un petit peu flatteur, parce que, encore une fois, dans le PIB, vous avez les pommes, vous savez, la valeur ajoutée
Oui.
créée par le secteur privé, les
Oui.
oranges, les salaires du secteur public. Donc, si vous, une partie importante de ces 1,2, ça a été une croissance, encore une fois, du secteur public, le nombre d'employés municipaux, etc., a augmenté. Donc il faudrait, pour être parfaitement honnête, comme c'est pas le secteur public qui va rembourser, puisqu'il est jamais en excédent, il faudrait en fait regarder la dette sur le PIB du secteur privé. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment de statistiques fiables sur le PIB du secteur privé. Mais en fait, la situation est bien pire qu'on ne le dit, là.
Ensuite, on a la situation du déficit. Vous avez encore dans les histogrammes sur l'échelle de gauche le déficit public de la France depuis 2016 en valeur absolue. Donc vous voyez que sur les années en gros 2016-2019, c'était plutôt contenu aux alentours de 80, 60, éventuellement 55 milliards les bonnes années. Et d'ailleurs, c'était plutôt dans la pente était plutôt dans le bon sens puisque les déficits avaient tendance à se réduire.
Mais c'était complètement faux parce qu'on avait mis les taux d'intérêt à zéro. Donc la charge de la dette était... La quasi-totalité de cette baisse de la croissance de la dette, ça a été le fait que la charge de la dette, qui était 60 milliards, est passée à 30. Et à la place de faire des économies pour là-dessus, sur le reste aussi, on a décidé de continuer à dépenser puisque ça coûtait rien.
Ouais, complètement. Et donc ça a évidemment largement augmenté au moment du Covid. On est passé à 200 milliards de déficit. Mais derrière, ça ne s'est pas particulièrement résorbé. On est resté aux alentours de 150 milliards. 170 milliards pour l'année 2024, 152 pour l'année 2025. Donc ça reste quand même très élevé. Et en plus de ça, ce déficit, cette petite baisse du déficit entre 2024 et 2025, elle est avant tout à attribuer à la hausse des impôts. Et pas tellement à la baisse des dépenses.
Ce qui veut dire que ça sera payé l'année d'après, sans doute, par une récession.
Voilà, c'est une possibilité. Et on reste à 5,1% de déficit par rapport au PIB, ce qui est aussi assez important, sachant que quand même, c'était François Bayrou qui faisait tout un plat de la rigueur budgétaire qu'il fallait imposer en France. Bon, la rigueur budgétaire, on n'y est pas. On a réduit le déficit d'une année sur l'autre, ça ne veut pas dire qu'on va continuer
jamais,
à le faire.
On n'a même procédé jamais si diminuer les dépenses. On a toujours augmenté les recettes.
Oui, complètement.
Donc, si vous voulez, c'était toujours la même chose. C'est les riches qui ne payent pas assez. Mais vous savez, c'est la vieille blague. Si vous êtes une dizaine de copains, vous invitez à déjeuner, et s'il y en a un qui paye 60% du déjeuner et tous les autres qui se répartissent le reste, si vous dites maintenant, non, toi, tu vas payer 70% et qu'ils se barrent, tout le monde, tous ceux qui restent, les 9 ou 10 qui restent, ils voient le prix de leur déjeuner augmenter de 50%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous passez votre temps à taxer les riches, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de riches, quoi. Ils sont tous partis.
Oui.
Ils sont pas. S'ils sont riches, c'est sans doute qu'ils ne sont pas idiots.
Oui, au bout d'un moment, il y a l'élastique qui saute, hein. C'est sûr.
Donc, cette histoire, si vous voulez, de résoudre. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire d'un déficit budgétaire qui a été réduit par une hausse des impôts. C'est quand même curieux, non ?
Réduite durablement, en tout cas.
Réduite, simplement réduite, parce que si vous augmentez les impôts, vous transférez de l'argent de ceux qui savent quoi en faire, le secteur privé, à ceux qui en font n'importe quoi, le secteur public, et donc la croissance ralentit. Donc l'année d'après, vous avez un problème. Et donc il faut augmenter les impôts, parce que donc la seule façon de réduire le déficit, c'est ce que fait Milei.
Oui.
Il faut couper dans les dépenses qui servent à rien.
Oui, il faut couper et on refuse systématiquement de couper là-dedans. Ensuite, vous avez l'évolution du rendement de l'OAT à 10 ans, c'est-à-dire la dette française émise à 10 ans entre 2016 et janvier 2026. Et donc, vous voyez que il y a une dizaine d'années, jusqu'en 2022, en gros, on avait des taux extraordinairement bas, ce qui est une anomalie en économie. Et ensuite, les taux ont commencé à augmenter drastiquement. Donc là, la dernière mesure de ce graphique, c'est à 3,53. Bon, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 3,8%. Donc ça a déjà pas mal augmenté entre janvier et avril. Et derrière, ça va avoir des répercussions massives. En fait, c'est la donnée presque principale de notre sujet d'aujourd'hui. C'est en fait l'évolution du rendement de l'OAT, parce que c'est ce roulement de la dette, qui est un roulement moyen de 8,2 années, qui va faire absolument exploser la charge de la dette, quand bien même notre situation budgétaire se réglerait complètement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le sujet de la vidéo, c'est que finalement, presque la croissance, qu'on soit à 1 ou 1,2% de croissance, qu'on réduise légèrement les déficits ou pas, ça va avoir derrière finalement assez peu d'incidence sur la taille réelle de la charge des intérêts de la dette.
Vous êtes dans le fameux truc de la cavalerie, ça veut dire que maintenant la dette est devenue tellement importante que c'est la charge de la dette qui vous fait couler.
Oui. Ouais, complètement. Et forcément, ça rejoint aussi d'ailleurs ce graphique-là, nos déficits des années précédentes, puisque vous voyez que quand les intérêts baissent, eh bien, nos déficits baissent aussi, puisque ça fait que la charge des intérêts de la dette baisse mécaniquement. Cette charge d'intérêt, elle est intéressante aussi. Donc, c'est encore une fois le graphique suivant. Vous la voyez en valeur absolue sur les histogrammes. Donc, en gros, au plus bas, c'était en 2020, on payait 29 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Et puis, ça monte depuis 35, 50, 60 en 2024 et puis 65 en 2025. Ça pourrait passer à 80%, à 80 milliards, pardon, l'année prochaine, donc en 2027.
Et ça, il faut expliquer le mécanisme, c'est que si vous payez, vous avez, la dette est en moyenne de 8 ans. Si pendant 8 ans, vous avez des taux d'intérêt à zéro,
ouais,
ben la charge de la dette devient zéro, quoi.
Oui. Tout à fait.
Et donc, si vous, c'est pendant 4 ans, ben, au début, vous aurez ces 4 ans qui se baladeront dans votre charge de la dette, qui sont dans la machine, puis quand les 4 ans sont tombés, vous retomberez à 8 multiplié par le taux d'intérêt. Mmh. Et donc, on sort automatiquement. Là, on a eu une espèce de période d'éclaircie qui a duré de 2015, 2016, 17 à 2023-24, mais c'est fini. Maintenant, on sait que maintenant. Alors, le problème, c'est qu'on a, comme le déficit n'est pas réduit, il augmente de 5. Cette année, c'est 100 que multiplie, mettons, allez, 4. Mm-hmm. L'année prochaine, ça sera 105 que multiplie 4, ainsi de suite. Donc, vous avez un double effet. Le déficit continue à faire augmenter la dette et le taux d'intérêt moyen que vous avez sur cette dette ne cesse d'augmenter. Donc, vous avez une double exponentielle.
Oui. Complètement. Et d'ailleurs, derrière, c'est aussi, forcément, dans les modélisations, c'est toujours un petit peu difficile à paramétrer très précisément, mais derrière, ça va avoir une implication, évidemment, sur les déficits, puisque, admettons qu'on a tout un stock de dépenses, enfin, un flux de dépenses qui est très important, mais, on va dire, qui est modulable, c'est-à-dire qu'on pourrait, si jamais vraiment on en avait envie, réduire ce flux de dépenses. En revanche, la charge des intérêts de la dette, c'est pas quelque chose qu'on module comme ça. On est obligé de le payer. Et par conséquent, plus cette charge de la dette va représenter une part importante de notre déficit, moins ce déficit sera modulable. Et du coup, plus ce sera difficile de réduire ce déficit. Donc en gros, là, si on passe à 80 milliards, ça va vouloir dire que ça va être la moitié de notre déficit qui va pouvoir être expliqué simplement par la charge des intérêts de la dette.
Et comme les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les discussions budgétaires qui ont eu lieu cette année et l'an dernier, ils se battaient comme des fous pour 7 milliards. Mmh. On va essayer de trouver 7 milliards. Mais oui, là, ça va être, la dette va monter de 14 à 15 milliards par an.
Quoi. Oui,
facile,
tout à fait.
La charge de la dette. Donc, si vous voulez que le déficit reste à 4 ou 5, il va falloir que les autres postes baissent à due concurrence de la hausse de la...
Complètement.
Donc, c'est complètement... Enfin, c'est une gestion de fous.
Ouais. Tout à fait. Donc, ensuite, on va faire un petit panorama des estimations de divers organismes. Alors, le premier, ça va être sans doute le pire, puisqu'on va parler de l'Agence France Trésor. L'Agence France Trésor publie chaque année un rapport sur la dette des administrations publiques qui est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport contient la projection officielle de référence sur 5 ans à laquelle se rattachent toutes les communications gouvernementales et les avis du Haut Conseil des Finances Publiques. Et donc, le périmètre principal, c'est la dette de l'État qui représente 82% de la dette publique totale. Et alors, dans la projection de l'Agence France Trésor par rapport au projet de loi de finances 2026, on a quelques paramètres qui sont, pour ainsi dire, très optimistes. C'est-à-dire qu'ils tablent sur une croissance du PIB réel d'abord de 1%, mais qui augmenterait jusqu'à 1,3% vers 2019. Vers 2029, je ne sais pas pourquoi. Une inflation alors qui serait en légère augmentation mais qui resterait relativement faible aux alentours de 1,8-1,9%, à la limite pourquoi pas. Alors un déficit public, ça c'est peut-être l'angle le plus scandaleux, c'est-à-dire qu'il pense que le déficit public va passer en pourcentage du PIB, va passer de 5% en 2026, à 4,1% en 2027, puis à 3,4% en 2028, puis à 2,8% en 2029. Donc on serait dans les critères de Maastricht à l'horizon 2029, avec une diminution drastique du déficit public en pourcentage du PIB chaque année. Bon, c'est très optimiste parce que c'est pas forcément ce qui s'est passé ces dernières années. Et aussi une OAT à 10 ans en pourcentage de rendement qui serait donc donc à 3,8 en 2026, là il n'y a pas de problème, mais qui resterait ensuite globalement stagnante à 3,9 en 2027, et puis 4% en 2028, 4% en 2029.
C'est là où il devrait, en fait, logiquement, ce qui devrait nous donner ces estimations, ce n'est pas le déficit public en pourcentage du PIB, c'est-à-dire le déficit public hors charge de la dette. Parce que compte tenu de l'augmentation de la charge de la dette,
oui,
ça ne va pas passer de 5 à 3,4, parce que ça voudrait dire qu'on est quasiment en train de revenir à l'équilibre. Hein, parce
oui.
Que...
oui, complètement.
Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous mentir, parce que compte tenu de l'augmentation de la charge de la dette,
oui,
y a ça... même, je ne vois pas comment, une seconde, il n'y a pas un gars qui peut croire cette
estimation. Ah non, mais c'est,
ils prennent pour des cons,
c'est impossible, hein. C'est impossible d'y croire. Très franchement, c'est une trajectoire impossible. Et derrière, sur la charge des intérêts de la dette, ça nous donnerait du 95 milliards en 2029. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment le scénario le plus positif qu'on puisse trouver.
Alors, France Trésor fait des estimations comme ça depuis la nuit des temps, et je n'ai jamais vu une seule fois où le déficit allait augmenter dans les années qui venaient. C'était, il allait toujours baisser. Donc probabilité, la crédibilité est zéro.
Oui, complètement. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que là, ça va être vraiment le scénario le plus optimiste qu'on va pouvoir trouver, qui ça défie vraiment l'imagination. Et malgré ça, donc avec la charge de la dette de l'État plus toutes les administrations publiques, etc., on arriverait quand même à plus de 100 milliards de charges des intérêts de la dette en 2029. Voilà. Donc ça reste quand même une augmentation très importante, malgré un scénario extraordinairement optimiste. Ensuite, on a le Fonds monétaire international. Je ne vais pas toutes les faire dans le détail, mais le Fonds monétaire international nous dit en gros croissance du PIB réel aux alentours de 1,1-1,3% en 2030, un déficit public de 4% du PIB à l'horizon 2030, dette publique brute en pourcentage du PIB à environ 130% en 2030, et derrière une charge des intérêts de la dette environ 3,7% en 2030, et donc ce serait quand même une augmentation vers à peu près 115 milliards de charges des intérêts de la dette, c'est-à-dire à peu près un doublement par rapport à aujourd'hui.
115 milliards, ça doit commencer à être une des dépenses les plus importantes de l'État, non ? Ça doit être
Oui.
Dans les tout premiers, ça doit être...
Oui, bien sûr. C'est déjà plutôt le cas, hein, mais là c'est sûr, oui, un quasi doublement, c'est en l'espace de 4 ans, c'est quand même beaucoup. Pareil, la Cour des comptes, ils ont un scénario qui est pas c'est difficile de prévoir, encore une fois, mais le scénario est pas complètement délirant, et ils pensent qu'on va arriver à peu près à 123 milliards, mais derrière on va arriver sur mes projections, et je vois pas comment on peut arriver à seulement 123 milliards. C'est même pas les paramètres que je remets en cause, mais c'est que j'ai l'impression qu'ils sous-estiment la puissance du roulement, avec encore une fois le fait qu'on remplace de la dette à quasiment 0% d'intérêt par de la dette à 3,8, et qui est en plus
mais
de
pourtant,
ça
c'est très facile à faire, ça.
Oui, c'est extrêmement facile à faire,
mais ça veut dire que s'ils le sous-estiment, c'est qu'ils le sous-estiment volontairement, quoi.
Ouais. Le scénario de la Banque de France, c'est à peu près à 120 milliards à l'horizon 2030.
Ils ont l'air de tous de mettre d'accord pour 120 milliards.
Bon, voilà. L'OFCE, ça va être à peu près la même chose. L'IFRAP, ça va être 90 milliards en 2027. Donc, bref, on est à peu près sur les mêmes trajectoires à chaque fois. Bon, alors ensuite, je vais vous montrer mes scénarios à moi, ma prospective 2025-2030. Alors tout d'abord, il faut expliquer un petit peu la méthodologie, c'est-à-dire que le modèle est conçu comme quelque chose de un cadre comptable simple, transparent, c'est facilement reproductible. J'ai pris quatre paramètres dedans, quatre composantes, à partir des données initiales de fin 2025, donc la dette publique brute 3460 milliards, PIB nominal de 1980 milliards, charges d'intérêt 65 milliards, déficit 152,5 milliards. Toutes les sources, c'est INSEE, Cour des comptes, etc. Avec à chaque fois des hypothèses macroéconomiques, donc sur la croissance du PIB réel, l'inflation, trajectoire du déficit, trajectoire du taux d'émission. Forcément, ça va être quatre paramètres qui vont définir le scénario. La mécanique du roulement, qui va être vraiment la plus importante. Je pense pensait au départ que la croissance du PIB et le déficit allaient être les paramètres les plus importants. En réalité, je me suis aperçu que c'était vraiment la mécanique du roulement. C'est-à-dire que, pour expliquer encore une fois, la maturité moyenne de la dette française, elle est de 8 ans, ce qui implique qu'environ 12,5% du stock de dette est renouvelé chaque année. Et donc, le taux moyen des dettes échues est différencié par millésime. Suivant la méthode, ça va être 1,2% pour les échéances 2026, c'est-à-dire les OAT à 10 ans émises entre 2016 et 2018. 0,8% pour l'échéance 2027, 0,6% pour 2028, avec ça c'était le millésime Covid, avec les taux nuls voire négatifs, et 0,8% pour 2029 et 1,5% pour 2030. Or, ça va être vraiment la différence. Vous voyez là, vous prenez la masse de dette qui est renouvelée, donc 12,5% du stock chaque année.
Plus le déficit,
et vous multipliez cela par le différentiel entre le taux qui est pratiqué aujourd'hui et le taux qui a été pratiqué il y a 8-10 ans, et qui est donc à échéance aujourd'hui. Et donc plus ce taux était petit à l'époque, pour les émissions de l'époque, plus le taux est aujourd'hui élevé, plus ce différentiel va être énorme et plus ça va avoir une importance sur la charge des intérêts de la dette. Donc voilà, pour expliquer un petit peu, j'ai fait d'abord un scénario central. Alors mon scénario central, il est peut-être très très légèrement négatif, mais c'est pas très grave. On va le prendre en compte quand même. Vous avez dans mon scénario central une inflation très faible, une croissance du PIB réel de 1% par an, une trajectoire du déficit constante à 5% du PIB et un taux marginal d'émission OAT à 10 ans aussi que j'estime constant à 3,8%. Voilà, je dis, ça va même pas augmenter, et une maturité moyenne de la dette qui reste à 8 ans. Eh bien, qu'est-ce que ça donne derrière sur la charge des intérêts de la dette ? Donc on est aujourd'hui à 65 milliards, ça nous mettrait à 82 milliards pour 2026, on dépasserait les 100 dès 2027, on arriverait à 122 dès 2028, donc on rejoindrait le scénario Banque de France de 2030, mais dès 2028, et ça augmenterait très vite ensuite, on arriverait à 143 en 2029 et 161 en 2030. Donc on voit un scénario qui est quand même, c'est pas ce qui va se passer, mais ça peut ne pas être loin de ce qui va se passer. C'est globalement notre trajectoire actuelle.
Si le déficit, tout compris, reste aux alentours de, mettons, 100 milliards, puisque hors intérêt de la dette, ça veut dire qu'à ce moment-là, on sera à 270 milliards de déficit contre 150 aujourd'hui.
Et je précise,
c'est monstrueux.
Voilà, je précise parce que là, je mesure le déficit en pourcentage du PIB. Oui. Si ce déficit reste stagnant à 5% du PIB, alors que la charge des intérêts augmente, ça veut dire que le déficit hors charge des intérêts, lui, diminue. Donc je suis quand même plutôt positif sur l'action du gouvernement.
Ce qui s'est jamais produit, quoi.
Voilà. Ce qui peut se produire d'une année sur l'autre, mais rarement sur des tendances longues, quoi. En tout cas, c'est pas tellement la tendance sur laquelle on est. Ensuite, j'ai fait un scénario favorable, avec une croissance du PIB réel à 1,3%, une inflation moyenne à 1,5%, une trajectoire du déficit extrêmement positive à 0,3% de points de PIB de réduction par an, donc on passerait de 5,1% de déficit par rapport au PIB aujourd'hui à 3,6% en 2030. Franchement, je suis franchement sympa. Taux marginal d'émission OAT à 3,6% constant, donc là c'est vraiment un cas positif. Et là, on arrive avec ce scénario quand même à 150 milliards de charges des intérêts de la dette en 2030. Donc là, on voit vraiment la puissance du roulement de la dette. C'est-à-dire qu'on, quoi qu'il arrive, même avec un scénario très positif, on passe de 65 à 150 en 5 ans. Et on passerait déjà les 100 en 2028 et on serait déjà à 135 en 2029. Donc c'est déjà vraiment beaucoup. Et ensuite, un scénario plutôt négatif. Il n'y a pas besoin de mettre un clou de plus dans le
cercueil.
Dans le cercueil. Mais là, avec ce scénario, c'est un scénario plutôt négatif dans lequel je dis croissance du PIB réel de 0,7% par an, une inflation à 1,9%, une trajectoire du déficit de plus 0,1% de points de PIB par an. Donc ça encore, je suis pas trop méchant là-dessus. Je table donc sur un PIB, un déficit par rapport au PIB qui évoluerait de 5,1% vers 5,6% à l'horizon 2030 et un taux marginal d'émission OAT, donc qui passerait de 3,8% aujourd'hui à 4,6% en 2030, donc une augmentation de 0,2 points par an. Et là, on arrive à une charge des intérêts de la dette qui avoisinerait les 180 milliards d'euros en 2030. Et alors, ça aussi, c'est là où j'ai fait moi-même une petite erreur, je m'en suis aperçu après coup, c'est que en fait, un scénario plus inflationniste, ce que j'ai pris en compte pour mon cas plutôt défavorable, c'est en fait plutôt une bonne chose pour l'État, oui. Puisque en fait, quand vous empruntez, vous êtes toujours content qu'il y ait de l'inflation.
Oui, au final. Et ça veut dire que la croissance nominale du PIB est plus forte.
Voilà, tout à fait. Donc là, c'est un défaut vraiment de mes trajectoires. Je m'en suis rendu compte après coup, mais j'ai d'essayer de garder les choses quand même, c'est pas très grave. Et ça fait que, par exemple, derrière, sur les courbes que je vous montre, alors, sur la dette publique, ça, c'est en valeur absolue, c'est pas très important, ça oscillerait du coup entre mon scénario positif et mon scénario négatif entre 4138 milliards et 4330 milliards, bon, ça, c'est pas très intéressant. Le ratio dette sur PIB, là, vous voyez que, en fait, dans mon scénario central, c'est-à-dire celui où il y a peu d'inflation, le ratio dette sur PIB est beaucoup plus important que dans mon scénario en fait défavorable à cause justement de l'inflation forte, de mon cas défavorable. Et ensuite, c'est là que ça nous intéresse le plus, c'est sur le troisième graphique, c'est-à-dire la charge des intérêts. Donc là, on serait en gros entre 150 et 170 milliards à l'horizon 2030. Bon, alors ces projections, elles sont pas forcément à prendre pour argent comptant. C'est un bon complément, je pense, des autres projections qui sont faites par les organismes officiels. Et ça montre aussi, puisque j'ai bidouillé moi-même les paramètres, que même dans un cas assez favorable, je ne vois pas comment on arrive à seulement 115 milliards de charges des intérêts de la dette en 2030. Très franchement, je ne vois pas comment on y arrive. À la limite, je veux bien accepter 130, 135, pourquoi pas, mais franchement, 115, je ne vois pas comment c'est possible, très honnêtement.
Bah oui, donc ça veut dire... Donc la charge des intérêts de la dette est en train de se rapprocher, ça devient maintenant, charge des intérêts de la dette en pourcentage du PIB, c'est à 5%.
Oui, à 5%, oui, ce qui devient vraiment énorme. 5%, ouais.
Ça veut dire que grosso modo, le PIB et le reste du déficit sera à peu près, mettons, à 3%, c'est-à-dire qu'on sera à 8% de déficit budgétaire.
Oui.
Et ces crétins nous expliquent que l'année prochaine, on sera à 3 ou 3,5, ou j'en sais rien.
Oui, oui.
Donc, et ce qui est intéressant avec ce travail que vous avez fait, c'est que c'est vraiment un résumé raisonnable des possibles. Et vous voyez que ce résumé raisonnable des possibles, il ne recouvre absolument pas la réalité telle qu'il essaie de nous le dire au Trésor. Quoi.
Oui, l'Agence France Trésor, c'est vraiment le pire scénario. C'est...
Donc, ils se foutent de notre gueule. Et... ce qui est certain, c'est qu'on voit très bien que tout ça se développe à peu près à 2-3 fois la vitesse de croissance du PIB. Donc on est vraiment dans une trappe à dette.
Oui.
Où plus vous attendez pour prendre une décision, et plus ça sera grave, plus ça sera déficit.
Complètement. Bah oui, puisque vous prenez aujourd'hui notre déficit. On est à 155 milliards à peu près, 152.
Vous voyez 100 milliards de déficit effectif et 50 pour la dette. Voilà. Allez, soyons simples.
Exactement. Vous prenez mon scénario, même le plus favorable, on arrive à 150 milliards de charges des intérêts de la dette à l'horizon 2030. Bah, même si vous enlevez tout le déficit hors dette, on arrive toujours à 150 milliards de dépenses supplémentaires. Donc en fait, il faudrait qu'on soit même en excédent budgétaire hors charge de la dette.
C'est ce qu'on appelle un excédent primaire.
Voilà, en excédent primaire.
L'Italie est en excédent primaire.
Voilà, et ben on n'y est pas du tout. Et il faudrait qu'on y soit pour
commencer à réduire.
Ouais, tout à fait. Et pour que le taux des OAT aussi se stabilise. Parce que là, on est à 3,8.
Il y a un moment ou un autre, si vous voulez, si tous les pays, si la plupart des pays ont des situations budgétaires à peu près normales et une situation normale, ouais. il va y avoir une prime de risque qui va se mettre sur la...
Complètement.
Sur la dette française, et cette prime de risque, elle fera accélérer le mouvement, quoi.
Complètement. Et c'est Cédric au bureau qui est lui un peu spécialiste de ces questions-là, qui regarde beaucoup les questions budgétaires, surtout en Europe, qui me disait que en fait, on a tout un tas d'institutions qui, pour des raisons réglementaires, sont tenues d'acheter de la dette européenne, globalement. Oui. Mais du coup, elles vont regarder au sein de la dette européenne qui sont les bons élèves, qui sont les mauvais élèves, et ces institutions vont vendre en premier lieu le mauvais élève. Bon, alors, aujourd'hui, on a le Royaume-Uni qui est aussi un mauvais élève, mais nous, on arrive franchement pas dans les premiers de la classe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, si ces institutions-là décident de vendre de la dette française, de la dette européenne mal notée, entre guillemets, pas par les agences de notation, mais par le marché et par notre situation budgétaire, eh bien, elles vont vendre en priorité les obligations françaises.
Elles seront peut-être obligées de le vendre parce que la plupart de ces institutions, étant des fonds de pension, etc., n'ont pas le droit de garder une dette qui serait en dessous d'un certain niveau. Mmh. C'est-à-dire que si la France passe en dessous de A, ouais. à ce moment-là, elles sont forcées de vendre. Mmh. Elles ne peuvent pas garder de la dette B quelque chose.
Ouais.
Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez avoir un effet cascade. C'est pour ça que les agences de notation ne veulent pas dénoter la dette ouais. française, parce qu'elles savent que ça amènerait probablement à une crise.
Ouais.
Mais c'est très embêtant quand les agences de notation prennent des décisions en fonction de l'attente qu'elles ont, des réactions que ces décisions auront sur les ouais. marchés. Ce n'est pas ce qu'on leur demande de faire. Ça. On leur demande de noter est-ce que le bilan est bon ou mauvais. Ils vous disent, je peux pas vous le dire parce qu'il est trop mauvais. Bon, mais c'est pas bien utile. Hein.
D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on surestime beaucoup la puissance des agences de notation. Parce que la dernière fois, au final, que la France a baissé de notes, ça n'a eu aucune répercussion à court terme sur le marché. En fait, le marché est très en avance sur les notations. Et aujourd'hui, on est, je sais plus notre note exacte, je crois qu'on est en A1, mais je voudrais pas dire de bêtises. En fait, on est notre taux d'intérêt.
Ça nous fait tomber en dessous de l'endroit où il faut, que la plupart des gens ne peuvent pas voir, c'est-à-dire B quelque chose. Mais mm-hmm. si ça se passe, je ne sais pas trop ce qui va se passer parce que est-ce que ce sera la BCE qui achètera ?
Oui, je pense.
Mais
je
à pense. Ce moment-là, ça veut dire que le taux de change s'écroule s'il commence à financer les folies de la France. Donc si ouais. aujourd'hui, on est dans une situation absolument impossible. Mais on a fait ce petit travail, enfin vous l'avez fait, parce que moi j'aime bien que les autres bossent à ma place. Mais vous l'avez fait, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que c'est pour expliquer pourquoi on ne veut pas une obligation en Europe.
Ouais.
Parce que ça, c'est vous savez, c'est la mèche allumée sur la bombe. Dans les dessins animés, vous savez, ça fait sauter tout le monde.
Tout à fait.
La bombe est là, la mèche est allumée. Je ne connais pas la longueur du cordon, mais je sais que la bombe va sauter. Quoi. C'est pas ouais. possible. Ouais. C'est mathématique. Quoi.
Oui,
c'est...
oui, donc ça peut tenir. Hein. Ça peut tenir jusqu'à 2030. Vous
connaissez pas la longueur de la dette. Hein, la longueur de la... Mais si, par exemple, l'Angleterre part en dig-dig parce qu'il se passe des trucs bizarres en Angleterre,
oui.
il est évident que la France sera emportée aussi. Quoi.
Oui, oui. Et puis, en plus de ça, il y a là, depuis quelque temps, ça se calme globalement parce que on a...
On regarde le pétrole, on peut pas penser à deux choses à la fois.
Voilà. Et puis, on a un gouvernement qui est relativement stable depuis la reprise.
Qui ne fait rien, d'ailleurs.
Qui ne fait rien. Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire, peut-être tant mieux. En revanche, on a des élections l'an prochain et on sait qu'avec les élections, ça va tanguer. Parce qu'en plus de ça, il y a de fortes possibilités pour que ce soit peut-être Jordan Bardella qui arrive à la magistrature suprême. En tout cas, le choix conservateur, on va dire, ce serait Édouard Philippe. Ce serait peut-être le cas qui ferait le moins augmenter les taux d'intérêt à court terme. Mais derrière,
à long terme, c'est lui qui le fera augmenter le plus.
Voilà, c'est ce que je pense aussi.
C'est plus incompétent. Regardez ce qu'il a fait au Havre et ça vous fait pleurer.
Oui, et regardez même ce qu'il a fait à la France sur les quelques années où il a été à Matignon. Donc bref,
c'est-à-dire que ça arrive dans ce pays. Si vous avez été incompétent et ennuyeux, tout le monde considère que vous avez fait du bon boulot. C'est-à-dire que c'est et si vous avez été compétent et plutôt rigolard, on considère que vous êtes un bon à rien.
Oui.
Donc c'est vraiment marcher d'un grave pas et d'un grave souci, comme disait Joachim Dubélé sur les cardinaux à Rome, vous savez, qui marchait avec l'air, ils portaient le monde sur leurs épaules. Mmh. Monsieur Édouard Philippe est un monsieur qui porte le monde sur les épaules. L'embêtant, c'est qu'il n'a pas d'épaule.
Ouais.
Et c'est ça qui est embêtant. Donc, il sert à rien si ce n'est avoir l'air de. Un candidat de plus qu'on sortira de sa boîte, comme on a sorti Macron, comme on a sorti Hollande, vous savez, le type qui a fait l'ENA, qui est convenable, mais qui est incompétent, qui est nul, qui comprend rien. Mmh. Donc quand est-ce que les Français vont se lasser de voter pour des imbéciles? Et surtout des imbéciles ennuyeux.
Oui. Oui, ça c'est vrai qu'on a une vraie passion pour l'ennui. On considère que l'ennui, ça fait sérieux.
Si vous n'êtes pas ennuyeux, c'est que vous n'êtes pas normal, quoi.
Oui, si vous êtes... pas bien sérieux.
Vous n'êtes pas bien sérieux. Donc, ben voilà, c'est un petit travail qu'on a fait pour vous, mais encore une fois, ça veut dire que ça, que tous ceux qui ont des cash flows négatifs en France, dans toutes les trucs que vous pouvez faire, les affaires que vous achetez, etc., faut pas en avoir, parce que ça veut dire que tous ceux qui ont besoin d'emprunter sont cuits. Parce que l'emprunteur le plus élevé dans la hiérarchie ne peut pas emprunter, vous pensez bien que vous, en bas de la file, vous ne pourrez pas non plus.
Ouais.
Donc, vous devez avoir dans vos affaires que des affaires qui ont des cash flows positifs.
Oui, tout à fait. Et ça répond un petit peu à l'émission qu'on avait faite, c'était il y a 2 semaines, on parlait justement des livrets A, des fonds euros, etc. Surtout pour la question des fonds euros, on a dit que dans les fonds euros, il y a de la dette et il y a de la dette de l'État français. Donc, faites vraiment attention quand on regarde le panel, là, quand on fait le diagnostic, on se dit que le patient il va pas bien, donc vaut mieux pas avoir des sous là-dedans.
Et ne croyez pas une seconde. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens disent oui, moi je vendrai la veille. Je leur dis oui.
La veille, vous savez pas que c'est la veille. Hein.
Il y a personne qui va sonner une cloche en disant
c'est demain matin, vous avez encore le temps de vendre ce soir, vous inquiétez pas.
Comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que d'un seul coup, les marchés se ferment et vous pouvez plus rien vendre.
Ouais. Oui, c'est sur ce genre de marché, ça peut aller très vite.
Ou vous avez jamais vendu.
Ouais, complètement.
Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de vous dire, c'est si vous en avez encore, Dieu sait que j'espère que vous n'en avez plus, c'est le moment de vendre la dette française.
Voilà, ça c'est le moment depuis quelques temps déjà.
Ça fait 3 ans qu'on le dit.
C'est le moment, ça va continuer certainement d'être le moment pendant un certain temps, jusqu'à ce que peut-être un miracle arrive, je ne sais pas. Mais
les miracles arrivent assez peu dans la finance. Hein.
Oui.
La loi des intérêts composés, ça connaît assez peu de miracles.
Oui, tout à fait. Donc voilà, pour ce petit travail que j'ai effectué pour vous, peut-être que je vais rendre disponible ce document d'ailleurs.
Mettez-le sur le site, oui.
Sur le site, c'est une possibilité. Et si jamais vous avez des fonds euros, du livret A, du tout ça, et que vous savez pas où vous faites confiance à vos assureurs qui vous prélèvent 3,5% de frais par an pour gérer vos finances, eh bien ma foi... j'ai envie de dire, inscrivez-vous à l'université de l'épargne où vous apprendrez à générer.
Vous économiserez 3%.
Ouais, vous économiserez. Non, mais quand je dis 3%, c'est je rigole pas.
Non, c'est
ça. Il y a
ça,
vraiment des fonds tout à fait génériques. Je regardais encore hier sur le contrat d'assurance vie d'un ami à moi. Il avait un fonds dans son assurance vie Small Caps Europe, je sais pas quoi. Bref, un truc qu'on peut tout à fait trouver sous forme d'ETF, par exemple. Et dedans, il y avait 2,2% de frais. Au total,
plus les frais qu'on mettra sur le change, plus le droit d'entrée, plus le droit de sortie,
oui,
etc.
Plus le droit d'entrée, plus le droit de sortie. 3% de droit d'entrée.
Quelle honte.
Donc vous investissez 100, vous avez direct 97. Et ensuite,
on vous prend 2% par an, c'est-à-dire que 97 moins 2, 95, vous commencez à moins 95, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez 6 ou 7% pour commencer à gagner un petit peu d'argent.
Voilà, c'est ça.
Banque en a gagné 5.
Oui, mais du coup, c'est pas forcément que vous perdez de l'argent, mais c'est qu'il y a quand même un manque à gagner énorme par rapport à quelque chose que vous pouvez bidouiller de façon assez simple dans votre salon avec votre
vous
téléphone.
Vous pouvez acheter un ETF Small Cap Europe et vous serez très bien.
Exactement.
Et ce sera 15 points de base.
Voilà, et ce sera 0,15 ou 0,25 à la limite point par an de frais, mais c'est tout quoi. Et ça c'est tout à fait accessible, c'est franchement simple, c'est pas il y a pas besoin de faire polytechnique pour savoir faire ça. Voilà, on termine avec cette émission assez courte, mais ma foi, on a fait le taf quand même. Et rejoignez-nous sur l'Université de l'Épargne.
Et sur l'Institut de Liberté.
Et sur l'Institut de Liberté.
Et posez des questions.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut de Liberté.
Merci beaucoup.